Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Nous prions, Dieu qui avait déjà envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je vais essayer aujourd'hui, Dieu aidant, de peut-être terminer le chapitre 4 de Saint Matthieu. Pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer. Alors, nous en sommes au verset 17. Verset 17 du chapitre 4. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. » Donc, nous avons terminé avec la prédication de Saint Jean-Baptiste, donc qui annonce notre Seigneur Jésus-Christ. Il a expliqué ce qu'il devait faire maintenant. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va prendre maintenant la place de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste était l'ombre, était l'image. Notre Seigneur Jésus-Christ est la réalité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va prendre petit à petit la place de Saint Jean-Baptiste, même pour ses apôtres qu'il va choisir, dont beaucoup vont venir des disciples de Saint Jean-Baptiste. On voit là l'extrême humilité de Saint Jean-Baptiste qui se met, si vous voulez, sur le côté, très facilement. Il a compris que son rôle était terminé. Et notre Seigneur Jésus-Christ, donc, va montrer justement les conséquences de la prédication de Saint Jean-Baptiste. Il reprend les mêmes idées. Faites pénitence car le royaume des cieux est proche. Prière, pénitence. Les deux grands moyens de lutter contre le découragement. Aujourd'hui, il faudrait rajouter à prière et pénitence une troisième chose qui est très importante, dont je parle tout le temps, l'étude. Prière, pénitence, étude. Et puis on peut clore avec les sacrements, c'est les quatre points. Toute la vie d'un chrétien est basée sur ces quatre choses, prière, pénitence, étude, sacrement. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, mystiquement, le Christ, donc c'est à la page 30 sur le polycopier, juste sous le chapitre 4, verset 17 de Saint Matthieu, le Christ ne commence ses prédications qu'après l'emprisonnement de Saint Jean, parce que l'évangile doit commencer à apparaître alors que la loi a cessé d'exister. Notre Seigneur a un tel respect pour Saint Jean, n'oublions pas que pour notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Et on dit qu'au Moyen-Âge, chrétien, après la très Sainte Vierge Marie, qui est un petit peu hors circuit, évidemment, la Sainte Vierge Marie est au-dessus de tous les saints, c'est évident. Mais après, il y avait deux saints qui étaient particulièrement vénérés au Moyen-Âge chrétien, en Europe surtout, notamment en France, Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Donc le Christ va, en quelque sorte, faire défiler devant lui toute la prédication de Saint Jean-Baptiste et la reprendre, la continuer, et passer de baptême de pénitence à un baptême sacramentel. Donc l'évangile commence à paraître, le Nouveau Testament va venir s'appuyer sur l'Ancien Testament qui est représenté par Saint Jean-Baptiste. Donc la loi, si vous voulez, il y a trois étapes, la loi purement juive, la loi de l'Ancien Testament qui ne promettait que des biens purement temporels finalement. Ensuite, Saint Jean-Baptiste qui arrive, qui élève déjà les âmes des auditeurs à un royaume éternel, mais encore très éloigné. Il ne peut que prêcher un baptême de pénitence. Puis notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive, le Messie annoncé par tous les prophètes, et qui lui va promettre un royaume éternel, un royaume des cieux qui est proche. Donc c'est le verset 17. Faites pénitence car le royaume des cieux est proche. Alors ici, j'ai trouvé dans les Pères un exemple de Saint Jérôme. Donc Saint Jérôme était à Bethléem. Vous savez que Saint Jérôme a passé les dernières années de sa vie à l'endroit même où notre Seigneur Jésus-Christ était né. Il y avait une grande dévotion dans le mystère de l'incarnation. Il avait construit à côté du lieu de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ un monastère pour les femmes. Et c'est là où régnait entre autres Sainte Paula, une grande, grande sainte de l'Antiquité chrétienne, qui était une noble dame d'une grande famille romaine, et qui va abandonner ses richesses, abandonner sa vie facile pour suivre Saint Jérôme et venir donner un exemple de pénitence extraordinaire au lieu même où notre Seigneur Jésus-Christ a pris chair, plus exactement où notre Seigneur Jésus-Christ est né à Bethléem. Sainte Paula était là avec sa fille, et elle était devenue la mère supérieure d'un groupe de femmes, et pratiquement toutes venaient de la haute société romaine. Voilà ce que dit Saint Jérôme, elle ne dormait pas sur un lit, mais directement sur le sol nu. Et encore, peut-on appeler sommeil ce qui était interrompu par des prières presque continuelles, jour et nuit. Comme dit le psaume, chaque nuit je mouille mon lit et ma couche de mes larmes. Si elle pleurait autant pour des fautes bénignes, qu'aurait-elle fait pour réparer de grosses fautes? Souvent, nous lui avons demandé d'avoir pitié de ses yeux et de les préserver pour la lecture de l'Évangile. Mais elle répondait en nous disant qu'il était normal que cette face soit enlaidie ainsi, car trop souvent, contre la commande de Dieu, elle fut ornée de cosmétiques et de vermillons. Ce corps qui s'était permis tant de frivolité doit maintenant être affligé, disait-elle. Les rires fréquents doivent être réparés par des pleurs constants. Les doux mouchoirs et les soies précieuses doivent laisser place à une rude étoffe. Moi, qui ai plu à mon mari et au monde, dois maintenant plaire au Christ. On va retrouver ce même changement de femmes de haute noblesse, de grandes richesses qui vont devenir comme des pauvresses pour notre Seigneur Jésus-Christ. On va retrouver ça à d'autres moments dans l'histoire de l'Église. Par exemple, avec la vie de Saint Vincent de Paul, on le voit très bien, Saint Vincent de Paul, donc, qui était à Paris. Et il a commencé à s'occuper donc des enfants abandonnés, des femmes abandonnées dans des milieux extrêmement défavorisés, très pauvres de la capitale. Et les premières femmes qui sont venues l'aider dans ce qui va devenir son ordre religieux, l'ordre religieux qu'il va fonder lui-même, eh bien, ces femmes venaient pratiquement toutes au début de la haute société, la haute noblesse de Paris. Cela doit nous montrer l'importance de la pénitence. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit expressément en d'autres occasions. Il va dire, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Donc la pénitence n'est pas quelque chose de facultatif. On a tous besoin de faire pénitence. Il ne faut pas dire, seuls les grands saints font pénitence, nous on fait pas des pénitences extraordinaires parce qu'on n'a pas grand-chose à se reprocher. Eh bien, il faut apprendre à se regarder dans une glace et essayer de voir notre âme telle que bon Dieu la voit et on verra que nous avons tous besoin de faire pénitence. Mais cependant, il faut faire un petit peu attention. Dans le domaine de la pénitence, une pénitence imposée est bien préférable à une pénitence choisie par soi-même. Pénitences choisies par soi-même peuvent être un peu dangereuses. On a vite fait tomber dans l'orgueil. Donc il faut faire pénitence, certes, mais il est meilleur de considérer que la première pénitence que le bon Dieu nous demande, c'est de remplir notre devoir d'état de chaque jour, remplir son devoir d'état de chaque jour, jour après jour, pour la plus grande gloire de Dieu, avec un grand sourire. Et c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus exigeant finalement de faire pénitence en acceptant justement toutes les petites épreuves que le bon Dieu permet que nous ayons tous les jours dans notre vie de devoir d'état de chaque jour. On voit parfois des catholiques qui veulent faire des pénitences extraordinaires. Alors, elle veut absolument se donner la discipline, elle veut se des chemises de crin, etc. Mais elles ne se sanctifient pas par leur devoir d'État. Alors, elles vont faire des choses extraordinaires comme ça, puis quand je leur dis, mais je suis allé chez vous, là, j'étais invité chez vous dimanche dernier, j'ai regardé un petit peu la maison avec vous, avec les enfants, avec votre mari, j'ai remarqué que c'est une pagaille monstre. Vous savez, vous devriez commencer peut-être par organiser un petit peu la maison. Ah, mais ça n'est pas question, j'ai pas le temps et il y a d'autres choses plus importantes à faire. Je dis, vous savez, Il est évident que vous n'aimez pas mettre de l'ordre dans la maison. Pourtant, c'est votre premier devoir d'État dans ce domaine. Donc, au lieu de faire des pénitences qui vous plaisent, faites donc des pénitences qui ne vous plaisent pas. Elles sont beaucoup plus précieuses aux yeux de Dieu. Commencez donc, par exemple, par mettre un peu d'ordre dans votre maison. Là, on voit parfois des personnes, c'est très fréquent chez les femmes, qui vont faire des grosses pénitences physiques, alimentaires, par exemple, et qui ne seront incapables de remplir leur devoir d'État de chaque jour. Devoir d'État d'obéissance, tout simplement. N'oublions pas qu'une des conséquences du péché mortel pour les femmes, pour les épouses, c'est d'être sous la soumission du mari. Tu seras soumise à ton mari. Et bien sûr, avec la deuxième conséquence du péché originel pour les femmes, tu enfanteras dans la douleur. Mais il est certainement plus difficile d'être soumise à son mari pour une femme que d'enfanter dans la douleur. Parce qu'enfanter dans la douleur, bon, ben, ça dure le temps de la naissance et puis après c'est fini. Tandis qu'être sous la soumission du mari, c'est beaucoup plus compliqué. Et beaucoup de femmes parfois disent, moi je serai soumise à mon mari le jour où mon mari deviendra un saint. On peut attendre longtemps avec des principes pareils. Il est évident que c'est très facile de dire ça. Et le bon Dieu vous demande d'être soumise à votre mari dans le domaine sur lequel il a le droit de vous commander, bien entendu. Et même s'il n'est pas un saint, même si vous êtes plus sainte que lui. Donc il faut, je pense, utiliser ce verset de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites pénitence car le royaume des cieux est proche. Un peu devant la glace, en disant, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Comment ce verset s'adresse-t-il à moi? Ensuite, c'est l'appel des apôtres. Jésus, verset 18. Marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et eux aussi, laissant leur filet, le suivirent. Et de là, s'avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée, leur père, réparant leur filet, et il les appela. Et eux aussi, laissant leur filet, leur père, le suivirent. Cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ aux quatre premiers apôtres, Saint Pierre et Saint André, son frère, d'une part, et d'autre part, Saint Jacques et Saint Jean, les fils de Zébédée, eh bien, cet appel est très surprenant. Donc, ils ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus-Christ, ou à peine. Ils en ont entendu parler par Saint Jean-Baptiste, ils ont entendu les prédications de Saint Jean-Baptiste, ils étaient peut-être même déjà un petit peu les disciples de Saint Jean-Baptiste. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive, il ne fait pas de miracle extraordinaire devant eux, il leur dit simplement, venez, laissez tout, suivez-moi. Il lâche tout, ils le suivent. Humainement parlant, on pourrait presque considérer ça comme une obéissance imprudente, une soumission imprudente. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Et non seulement ce qu'ils ont fait bien, mais notre Seigneur Jésus-Christ va donner en exemple l'esprit d'humilité, l'esprit d'obéissance et l'esprit de soumission des apôtres. Bon, certes, c'est du domaine miraculeux. Dieu a donné à Saint-Pierre et Saint-André, à Saint-Jacques et Saint-Jean, des grâces de lumière particulières pour qu'au moment où notre Seigneur Jésus-Christ leur dit « Suivez-moi, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes », donc, ils ont eu une illumination intellectuelle et spirituelle dans leur âme, dans leur intelligence, pour comprendre que c'était le Messie qui était devant eux et qu'il fallait suivre. Il y a aussi une deuxième chose qui est un peu étonnante. On l'entend très souvent, un peu comme à manière d'un reproche. Beaucoup de personnes disent, mais comment se fait-il que notre Seigneur Jésus-Christ soit allé chercher des gens qui étaient déjà mariés. Le seul apôtre qui n'était pas marié, c'était Saint Jean. Saint Jean. On verra plus tard dans l'évangile selon Saint Jean, au moment du miracle de Cana, on verra ça plus tard, que beaucoup de pères pensent que au miracle de Cana, la personne qui était mariée, c'était Saint Thomas. Et donc Saint Thomas venait d'être marié et notre Seigneur Jésus-Christ va appeler Saint Thomas. Donc le jour de ses noces, notre Seigneur appelle Saint Thomas, abandonne tout, viens et suis-moi. Et il le fait. Évidemment, humainement parlant, c'est difficile à expliquer. Notre Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre que les biens que donne notre Seigneur Jésus-Christ sont très, 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 très importants et largement au-dessus des biens du mariage. Et donc, dans des cas extraordinaires, le bon Dieu demande un sacrifice supplémentaire. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ avait une affection toute particulière pour Saint Jean. C'était l'apôtre que Jésus aimait. Pourquoi? Parce que Saint Jean était le seul apôtre qui n'avait pas été marié. Alors, voyons un peu les commentaires des pères de l'Église, donc en bas de la page 30, sur ces versets qui par lesquels notre Seigneur Jésus-Christ appelle à sa suite les disciples, les premiers apôtres. Donc la profession pêcheur est aussi un symbole de leur dignité future, car de même que le pêcheur, lorsqu'il jette ses filets dans l'eau, ignore quel poisson il va prendre, ainsi le prédicateur, lorsqu'il jette sur le peuple qu'il écoute les filets de la parole divine, ignore quels sont ceux qui vont venir à Dieu. C'est Dieu lui-même qui excite ceux qui doivent embrasser la doctrine, sa doctrine. C'est-à-dire que non seulement Dieu va donner des grâces spéciales pour que les auditeurs, ceux des parmi les auditeurs qui doivent suivre notre Seigneur Jésus-Christ d'une façon tout particulière, le fassent, mais en plus de ça, Dieu va donner à ses premiers apôtres des grâces encore toutes particulières. On voit comment le bon Dieu dirige tout avec ses grâces. Hein? C'est donc avec le filet de la parole de Dieu que vous devez prendre et retirer les hommes de ce monde si fécond en tempête et en naufrage, où les hommes ne marchent pas mais sont entraînés avec violence parce que le démon se sert de l'attrait du plaisir pour les précipiter dans cet abîme de maux où les hommes se dévorent les uns les autres comme on voit dans la mer les plus petits poissons dévorés par les plus grands. Prenez-les donc afin de les faire vivre sur la terre lorsqu'ils seront devenus des membres du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit très bien en mettant ce passage en parallèle avec d'autres passages de l'Écriture sainte, que lorsque le filet ramène les poissons, il y a un tri qui se fait. Il y a un tri qui se fait. On voit bien que le pêcheur propriétaire de la barque, le maître pêcheur, va garder certains poissons et ceux dont il n'a pas besoin, qu'il ne veut pas, ou sont trop petits par exemple, il va les remettre à l'eau. C'est pareil avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas les dire de façon général, dès le début, à tout le monde, venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Non, il appelle certaines personnes, certaines âmes. Il va appeler Pierre et André, puis il va appeler aussi Jacques et Jean. Et donc on voit très bien, encore une fois, vous voyez, c'est toujours la même idée qui est tellement importante, il n'y a aucune égalité entre les âmes pour Dieu. Ce mensonge de l'égalité dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée, dans les moyens modernes, surtout Internet, la télévision, les journaux, tout ça, on nous parle d'égalité à longueur de journée. L'égalité n'existe pas pour Dieu. Même parmi les apôtres, il n'y a pas d'égalité. Il y en a qui l'aiment plus que l'autre. Il aime tous les apôtres, bien sûr, mais il aime d'abord Saint Jean, Saint Pierre et Saint Jacques. C'est pour ça que c'est eux qu'il va prendre avec lui, par exemple, au sommet du Tabor. Les autres, il ne les prend pas. C'est eux qu'il va prendre d'une façon toute spéciale avec lui pendant la Passion au Jardin des Oliviers. Les autres, il les laisse à la porte. Vous voyez, donc il faut comprendre que cette égalité voulue par la Révolution a justement pour but de briser complètement le socle même de la société. La société est créée de façon inégale, avec des membres inégaux. Et c'est justement ce qui fait la force d'une société. C'est pour ça que la cellule de base de la société humaine, c'est quoi? C'est la famille. Et dans la famille, il n'y a pas d'égalité entre les membres de la famille. Il y a un chef de famille qui est le cerveau de la famille. Il y a un cœur dans la famille qui est aussi très important, bien sûr, c'est la mère. Et ensuite, il y a les enfants. Et il y a une autorité du père de famille sur l'épouse, une autorité des parents sur les enfants. Il n'y a pas d'égalité. Vous voulez détruire une famille, mettez l'égalité entre les enfants et les parents. Et c'est ce qui se fait actuellement. Mais alors, on voit très bien dans le monde moderne comment ils cherchent justement à détruire totalement cette notion de différence entre les gens. C'est pour ça qu'il y a une des raisons pour lesquelles ils n'aiment pas l'Église catholique. Les gens modernes n'aiment pas l'Église catholique parce qu'il n'y a pas d'égalité dans l'Église catholique. L'égalité n'existe pas en aucun endroit. On voit dans l'Évangile notre Seigneur Jésus-Christ parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Pas du tout. Au contraire, il parle de l'inégalité entre les gens. Chacun a un rôle tout particulier dans la société. Et si on remplit son rôle dans la société, à ce moment-là, la société tourne droit. On le voit très bien actuellement, comment le gouvernement surtout fait tout son possible maintenant pour détruire le principe même de différence entre les gens. Regardez tout ce qui se fait à propos des théories du genre. Même s'ils vont droit dans le mur et qu'ils le savent très bien. Parfois, on entend des gens qui sont très en faveur la théorie du genre, de reconnaître qu'ils n'arrivent pas à inculquer ça aux enfants. Ils disent aux enfants, les enfants sont égaux, les enfants sont égaux, les enfants sont égaux, mais ils nous disent, ils reconnaissent, ils disent, oui, c'est vrai que quand on met un petit garçon devant des jouets, sur une table, on met des petites voitures et on met des poupées, et ben la petite fille va spontanément prendre la poupée et le petit garçon va prendre spontanément la voiture. Or, ils voudraient bien, les modernes voudraient bien que les choses se fassent de façon différente pour pouvoir dire, voyez bien, tout ça c'est une question simplement d'éducation. Si on change d'éducation, on arrivera à obtenir une égalité entre les gens. Non, il n'y a pas d'égalité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ appelle certains de ses disciples et il les appelle de façon spéciale. C'est ça la vocation. La vocation correspond à un appel spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissant tout, laissant leur filet et leur père, ils le suivirent. Donc, voyons un petit peu les commentaires des pères de l'Église sur ce sujet. C'est avec le filet de la parole de Dieu que vous devez prendre et retirer les hommes de ce monde si fécond en tempête et naufrage. Bon, on a déjà lu ce passage. Ni Pierre ni André n'avaient vu Pierre, Jésus-Christ, opérer des miracles. Ils ne l'avaient pas entendu parler des récompenses éternelles. Et cependant, sur le seul commandement qu'il leur fait, ils abandonnent tout. Tout ce qu'ils paraissaient posséder. Aussitôt, ils quittèrent leur filet et le suivirent. Donc ce qu'il faut apprécier ici, c'est plutôt, page 31 en haut, ce qu'il faut apprécier ici, c'est plutôt la disposition de leur âme que l'importance de ce qu'ils abandonnent. On verra après que notre Seigneur Jésus-Christ demande à ceux qui le suivent d'une façon toute spéciale, à ces religieux, non pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils sont. Et il est beaucoup plus difficile de donner ce qu'on est, que de donner ce qu'on a. La pauvreté est relativement facile. Par contre, de donner aux représentants de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre supérieur direct, notre volonté propre, ça c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, le bon Dieu va demander les trois choses. Il va demander, pour lutter contre les trois concupiscences, il va demander l'esprit de pauvreté à tout le monde, il va demander l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Et des trois vœux des moines, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, le plus dur de loin, c'est l'obéissance. Tous les religieux vous diront la même chose. Alors quand on nous donne des ordres qui correspondent à ce qu'on veut, ça, c'est très facile. Mais ça arrive très souvent d'avoir des tas d'idées différentes des supérieurs et on pense, et souvent c'est vrai, que nos idées sont meilleures que celles des supérieurs, mais il faut quand même obéir aux supérieurs, même si ces idées nous semblent, au moins au début, parfois, être fausses. Eh bien, du moment qu'elles vont ni contre la foi, ni contre les mœurs, ni contre les constitutions de l'ordre dans lequel on est, on obéit, mais c'est tout. C'est une phrase importante. Ce qu'il faut apprécier ici, c'est plutôt la disposition de l'âme des apôtres que l'importance de ce qu'ils abandonnent. Donc après, les pères vont expliquer un peu ce dont je viens de parler. C'est beaucoup laisser que de ne se réserver rien. C'est beaucoup abandonner que de renoncer non seulement à ce qu'on possède, mais à tout ce qu'on pourrait désirer encore. Pour suivre Jésus-Christ, ils abandonnent donc réellement tout ce qu'ils auraient pu désirer en s'attachant à lui. Le Seigneur se contente de nos biens extérieurs, quelque peu considérables qu'ils soient. Il regarde moins la grandeur des biens qu'on lui offre qu'à la générosité du sentiment qu'il lui sacrifie. Le royaume des dieux est d'un prix inestimable, il vaut mieux, il vaut tout ce que vous avez et il est bien plus méritoire de donner ce que l'on est par le conseil évangélique d'obéissance que de donner ce que l'on a. Donner ce que l'on a, ça correspond à la pauvreté évangélique. Donner ce qu'on est, EST, ça correspond à l'obéissance évangélique. Donc l'obéissance évangélique est largement au-dessus de la pauvreté évangélique. Et on peut même dire que l'obéissance évangélique est au-dessus de la chasteté évangélique. Bien que la chasteté soit la vertu des anges. Vous voyez, tout tourne autour de toute la vie religieuse. La vie consacrée tourne autour de ces trois vertus essentielles pour le religieux, l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Et on voit comment notre Seigneur Jésus-Christ va immédiatement inculquer à ses disciples qui viennent d'arriver, à ses apôtres, il va inculquer l'obéissance d'abord. Viens et suis-moi. C'est un ordre de Dieu. Notre Seigneur ne demande pas aux apôtres « Voulez-vous venir avec moi ? Ça me ferait plaisir que vous veniez avec moi. » Est-ce que vous voulez me joindre? Non. Venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est un ordre. Vous quittez votre père, vous quittez vos filets, vous quittez votre barque, vous quittez vos poissons, vous quittez votre épouse, ils étaient tous mariés, sauf Saint Jean, et vous venez à ma suite. Et l'extraordinaire dans la vie des apôtres, c'est qu'il n'y a pas un qu'à discuter. Ils ont tous obéi. Oui. Est-ce que nous serions capables de faire des choses pareilles? Oui. Bon, vous allez me dire, aujourd'hui, c'est vrai que notre Seigneur, en général, ne se manifeste pas de cette façon. C'est rare qu'il se manifeste de la même façon qu'il s'est manifesté à Saint-Pierre et Saint-André, ou Saint-Jacques et Saint-Jean, ou Saint-Paul. Il est évident que là, c'est des appels clairs. Hein, quand notre Seigneur Jésus-Christ apparaît à Saint-Paul sur le chemin de Damas, et qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » et qui l'a précipité de son cheval, qui se retrouve au pied de son cheval à tâtonner parce qu'il est devenu aveugle, est évident que c'est un coup très fort pour saint Paul. Et cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est ça un petit peu le mystère, c'est que l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il semble sans réplique, l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ ne détruit pas le libre arbitre des apôtres. Attention. Parfois difficile à comprendre, par exemple pour saint Paul, difficile de voir son libre arbitre, pourtant il est là. Bon, c'est évident, quand saint Paul s'est retrouvé paralysé au pied du cheval et on a dû le conduire par la main jusqu'à ce qu'il rencontre les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ qui vont venir le guérir, bon, c'est évident que saint Paul, il n'y a pas grand chose à dire, il fallait qu'il suive. Mais il va falloir aussi qu'il suive librement. C'est la même chose pour les quatre apôtres ici. On a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ les appelle et qu'il a détruit leur volonté propre, mais pas du tout. La volonté propre des apôtres est toujours là, attention. Donc il est plus méritoire de donner ce que l'on est, par le conseil d'obéissance, conseil évangélique, que donner ce que l'on a, par le conseil évangélique, de pauvreté. Et ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Il y a trois conseils évangéliques, il y a 10 obligations, les 10 commandements, et les 3 conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance, pour lutter contre les 3 concupiscences. Contre la concupiscence des yeux, la pauvreté, contre la chair, la chasteté, contre pauvreté, chasteté, obéissance, je me trompe là, contre la concupiscence de l'orgueil, pardon, la vertu d'obéissance. Oui. Et il faut comprendre que le bon Dieu nous demande également de pratiquer l'esprit de pauvreté, chasteté, obéissance, même en dehors de la vie religieuse. Hein. Donc vous avez des enfants, vous avez intérêt à leur mettre dans la cervelle pendant qu'ils sont tout petits cet esprit de pauvreté, chasteté, d'obéissance. Surtout pas les corrompre. Ne laissez pas l'esprit du monde rentrer dans l'âme de vos enfants. Hein? Vous aussi, vous devez dire à vos enfants un peu cette même phrase, il faut l'adapter aux enfants. Venez, suivez-moi, suivez vos parents, suivez l'exemple de vos parents. Mais les parents, ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Hein? Donc si vous n'avez pas ces convictions religieuses, vous n'êtes pas convaincu de l'importance de la pauvreté, de la chasteté, de l'obéissance, si vous couvrez vos enfants de choses mondaines et des plaisirs du monde, ben, n'espérez pas que vos enfants conservent la foi, ils vont la perdre, c'est absolument évident. Deuxième paragraphe de la page 31. Plein de ces désirs, ils abandonnèrent tout pour suivre Jésus-Christ. Et nous apprirent par ce sacrifice qu'on ne peut à la fois posséder les choses de la terre et parvenir à la possession parfaite des biens célestes. Beaucoup de gens sont d'accord pour aller au paradis, une condition, c'est qu'ils aient d'abord bien joui des plaisirs de la terre. Une fois qu'on a bien joui des plaisirs de la terre, on est en train de mourir, on est venu tout complètement décati, alors là il n'y a plus de problème, on ne peut plus faire grand chose, donc on ne peut plus jouir ici-bas, alors je veux bien m'occuper du bon Dieu à ce moment-là. J'ai un pied dans la tombe, je m'occupe du bon Dieu. Mais non, ce n'est pas ce que demande le bon Dieu. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand on a déjà un pied dans la tombe. Le bon Dieu nous demande de le suivre justement quand on a beaucoup. Au moins de savoir donner au moins le principe même de l'amour du bon Dieu. Il n'y a pas d'amour du bon Dieu sans ces 3 vertus, c'est impossible. Vous voulez aimer le bon Dieu, prouvez-le lui par l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Donc plus vous avez l'esprit du monde, plus vous envahissez, faites envahir, vous permettez que votre maison, votre cœur, votre âme, l'âme de vos enfants soit envahie par l'esprit du monde, moi, notre Seigneur Jésus-Christ peut y régner. Celui qui veut venir après moi, qui se renonce, qui prenne sa croix et qui me suive, nous dit notre Seigneur. Cette phrase est importante, je la répète. On ne peut à la fois posséder les choses de la terre et parvenir à la possession parfaite des biens célestes. Notre Seigneur nous enseigne par là d'une manière implicite que celui qui n'a pas la charité fraternelle ne doit pas se charger du ministère de la prédication. Car il y a 2 préceptes de la charité et il faut au moins 2 personnes pour qu'elles puissent s'exercer. Les 2 préceptes de la charité, c'est quoi? C'est charité à l'égard de Dieu, à l'égard du prochain. Aimer Dieu, bien sûr. Et aimer le prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. Deuxième précepte. Attention, cette charité fraternelle dont parle notre Seigneur, ce n'est pas simplement une charité purement extérieure. N'oubliez pas ce que c'est que la charité. La charité, c'est l'accomplissement de la volonté du bon Dieu pour moi. La charité, c'est donc, je vous l'ai expliqué déjà des dizaines de fois, je répète toujours la même chose, la charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est ça la charité. Donc quelqu'un qui ne suit pas les 10 commandements du bon Dieu, même s'il est très charitable naturellement parlant, il n'a aucune charité surnaturelle. Donc la charité que notre Seigneur Jésus-Christ veut, c'est la charité surnaturelle, attention. Donc c'est avec le troisième paragraphe de la page 31. C'est avec raison que Jésus a fait reposer les fondements de son Église sur la charité fraternelle, afin que la sève sortant avec abondance de cette racine puisse se répandre dans toutes les branches. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Donc notre Seigneur Jésus-Christ veut que ses premiers disciples aient entre eux un lien extrêmement fort, et ce lien fort, bon, ça va être bien sûr la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même va se charger de leur faire aimer cette croix. Il va falloir qu'ils boivent le calice de la passion, hein. Mais en même temps, le bon Dieu, si vous voulez, va leur expliquer dès le début que ce qui va faire leur force, c'est justement ce triple esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est pour cela qu'il leur dit, venez et suivez-moi. Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheur d'hommes. Donc ce n'est pas seulement ici la charité produite par la grâce, mais l'affection naturelle pour que la charité reçoive ce double et ferme appui de la nature et de la grâce. N'oubliez pas que la grande règle de saint Thomas d'Aquin, la grâce ne détruit pas la nature. Donc il faut une charité naturelle parfois pour permettre à la charité surnaturelle de grandir. La charité naturelle n'est pas là, les fondations de l'œuvre ne sont pas là, et du coup, la fondation, l'œuvre fondée n'est pas suffisamment solide et risque de s'écrouler parce qu'il manque les fondations. Les fondations, c'est quoi? Ce sont les fondations de la vie religieuse. Les fondations de la vie religieuse, c'est la pauvreté, chasteté, obéissance. Quelles sont les fondations d'une famille catholique, surtout pour du côté des enfants? C'est l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Donc si vos enfants dans la pratique font qu'à leur tête, si vos enfants sont incapables de faire un petit peu de pénitence, c'est que si vous donnez à vos enfants tous les biens du monde, on voit parfois des parents catholiques qui commettent ces erreurs énormes de donner par exemple déjà des téléphones portables, quand ce n'est pas des téléphones, des smartphones, des téléphones intelligents avec Internet, à leurs enfants de 10 ans. Comment voulez-vous qu'un enfant de 10 ans qui peut déjà pianoter sur Internet à longueur de journée puisse garder l'esprit de chasteté et l'esprit de simplicité, l'esprit de pauvreté, c'est impossible. Parce que justement, il va avoir constamment ces écrans qui vont flasher devant ses yeux et qui vont le pousser à posséder toutes les choses du monde. Donc il y a pas de la foi. Voilà pourquoi donc l'Évangile dit qu'ils étaient frères, ses frères, donc deux frères, Pierre et André. D'une part, Jacques et Jean, d'autre part, cette frère représente, disent les pères, l'union de la nature et de la grâce. C'est pour ça qu'il y a deux frères, hein, dans le sens que, il n'y a pas simplement un qui suit, mais l'autre qui suit aussi, qui vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ, par deux binômes en quelque sorte, justement parce que la grâce et la nature doivent travailler ensemble. Et les pères expliquent que c'est ainsi que Dieu avait agi aussi dans l'Ancien Testament, en posant les bases de l'ancienne loi sur les deux frères Moïse et Aaron. Donc, Aaron allait représenter Moïse, et Moïse allait représenter Aaron quand c'était nécessaire dans la conduite du peuple hébreu. Moïse n'était pas toujours là parce qu'il devait s'occuper des choses de Dieu, et c'est Aaron qui prenait la commande. Ça s'est d'ailleurs très mal passé parfois avec l'adoration du bœuf, du bœuf de bronze, du bœuf d'airain, du bœuf d'or. Comme la grâce est plus abondante, disent les pères, dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, Dieu fait reposer les fondements de la société chrétienne, sur deux sentiments de cette nature, tandis que le premier peuple ne reposait que sur un seul. Peut-être les uns sont-ils représentés jetant leur filet à cause de Pierre qui prêche l'Évangile, mais sans le laisser par écrit, tandis que nous voyons les autres réparer leur filet en figure de Jean qui a composé son Évangile. Donc il y a une espèce de stabilité, c'est Saint Jean, qui est représenté par le fait qu'il va écrire son évangile tout à fait après les trois premiers synoptiques, Saint-Pierre, Saint-Matthieu, Saint-Luc et Saint-Marc. Alors ensuite, il y a un paragraphe très important, donc le quatrième paragraphe de la page 31. Là, j'insiste sur ce paragraphe qui est capital. Donc celui qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ça va résumer un peu tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Celui qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ doit renoncer à trois choses. À la chair, au monde et aux affections de la famille. Aux œuvres de la chair, donc il va d'abord devoir renoncer aux œuvres de la chair qui sont figurées par les filets des pécheurs. Au bien de ce monde dont la barque est le symbole. Aux affections de la famille signifiées par le père des deux apôtres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on le voit un petit peu. Donc les œuvres de la chair, donc c'est la première concupiscence, hein, concupiscence de la chair, sont figurées par les filets des pécheurs, de même que les filets vont capturer les poissons, mais les filets du démon de la chair vont essayer de capturer les âmes. Ou bien de ce monde dont la barque est le symbole, donc la barque qui se remplit de biens matériels, les poissons qui tombent dans la barque représentent les biens matériels qui vont attirer les âmes loin du bon Dieu. Donc ça, c'est la concupiscence des yeux. Et enfin, affection de la famille, signifiée par le père des deux apôtres, donc Zébédée, père de Saint Jacques et Saint Jean. Ils laissent donc une barque pour devenir les pilotes du vaisseau de l'Église. Ils laissent leur filet, car ils ne veulent plus emporter de poissons dans les villes de la terre, mais conduire les hommes dans la cité des cieux. Ils laissent un père pour devenir eux-mêmes les pères spirituels du monde entier. C'est-à-dire, il y a un passage ici, si vous voulez, d'un attachement paternel, d'un attachement familial, à un attachement spirituel. On change de niveau. D'accord? Donc, il faut, évidemment, donc, pour pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ, se couper de ces trois attachements. À la fois les œuvres de la chair, donc par l'esprit de la concupiscence, je veux dire, la concupiscence de la chair qui va être bloquée ou jugulée ou maîtrisée au moins par l'esprit de chasteté. Les biens de ce monde, c'est la concupiscence des yeux. La barque est le symbole des biens de ce monde. La concupiscence des yeux, c'est donc l'esprit de pauvreté. Et la troisième, les affections de la famille, signifiée par le père des deux apôtres, ça c'est l'orgueil. Et l'orgueil, donc, qui va être vaincu par l'obéissance. Donc, on retrouve les trois mêmes vertus. Alors ensuite, passons au sens mystique. Donc, en deuxième partie de la page 31. Donc, dans le sens mystique, c'est le sens, les trois sens, surtout allégorique, tropologique et anagogique, j'ai expliqué. Donc, la mer représente le monde, bon, à cause de l'amertume de ses eaux, de l'agitation de ses flots. Le mot Galilée signifie mouvement rapide ou roue, et il exprime le cours rapide des choses humaines. Donc, Jésus a marché sur le bord de la mer lorsqu'il est venu à nous par son incarnation. Car ce n'est pas la chair du péché, mais la ressemblance de cette chair qu'il a prise dans le sein de la Vierge Marie. Donc il a pris une chair humaine, il s'est fait homme en tout, il y a tout de l'homme entre Seigneur Jésus-Christ, sauf le péché. Donc les deux frères désignent les deux peuples qui sont tous deux, qui tous les deux ont Dieu pour créateur et pour père, et ce Dieu les vit lorsqu'il tourna vers eux les regards de sa miséricorde. Ces deux peuples, c'est le peuple des Juifs et le peuple des gentils. Donc les deux frères, les deux binômes, si vous voulez, Pierre et André d'une part, Jacques et Jean d'autre part, représentent l'union des deux peuples. Le peuple juif et le peuple des gentils. Alors là, c'est une comparaison qu'on va retrouver souvent dans les évangiles. Donc la mer, les vagues de la mer représentent donc le monde, hein, à cause de l'agitation constante du monde. Il n'y a jamais de paix. Sur un lac, quand on a une mer d'huile, c'est relativement rare. Surtout dans ces pays où il y a beaucoup de vent, les pays de Moyen-Orient, il y a beaucoup de vent, donc y a pas, c'est rare d'avoir une mer d'huile. Donc le mouvement des vagues, les tourbillons de l'eau, représentent justement toute l'agitation du monde moderne. Pierre, le sens de Pierre, Céphas. Il signifie celui qui connaît, qui est appelé Simon, c'est-à-dire celui qui obéit. Oui, on voit bien la notion d'obéissance. Et la figure du peuple juif qui puisa dans la loi la connaissance de Dieu et obéit à ses préceptes. C'est pour ça qu'on appelle celui qui obéit. Son frère André veut dire fort, d'un aspect agréable. Il représente la gentilité qui persévère courageusement dans la foi aussitôt qu'elle a reçu la connaissance de Dieu. Vous voyez les deux choses là qui apparaissent, donc à la fois le peuple juif, représenté surtout par Saint-Pierre, et l'autre côté du binôme, si vous voulez, le deuxième apôtre, lui représente l'arrivée des gentils. C'est la même chose, la même comparaison qu'on peut faire entre Saint-Pierre et Saint-André d'une part, et Jacques et Jean d'autre part. Donc Dieu appela ses peuples lorsqu'il envoya ses prédicateurs dans le monde en leur disant, venez à ma suite. C'est-à-dire, laissez celui qui vous trompe poursuivre celui qui vous a créé. Dans l'un comme dans l'autre peuple, peuple juif et peuple des gentils, Dieu choisit les pécheurs d'hommes, c'est-à-dire des prédicateurs qui, laissant leur barque, figure des désirs de la chair et leur filet, c'est-à-dire les convoitises du siècle, ont suivi aussitôt le Sauveur. Pourquoi le filet représente-t-il les convoitises du siècle? Parce que on lance le filet pour attraper du poisson. Et plus la prise est grosse, plus on peut vendre le poisson et faire de l'argent. Donc plus on devient riche, plus on devient riche si la prise de poisson est importante. Bon, ben ça représente donc tout à fait les convoitises du siècle, c'est-à-dire les yeux qui regardent les choses de ce monde, et plus on regarde, plus on en veut. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ demande l'esprit de pauvreté, et cet esprit de pauvreté va se manifester par l'abandon des filets, l'abandon de la pêche, l'abandon de la barque, l'abandon des poissons, pour passer des poissons matériels, des poissons de la mer, aux poissons spirituels. Donc passer d'une pêche matérielle à une pêche spirituelle, passer de la terre au ciel. Donc Jacques, Saint Jacques, représente aussi le peuple juif. Donc, qui a supplanté le démon et ruiné son empire par la connaissance du vrai Dieu. Donc là, les pères de l'Église vont expliquer le sens de chacun des quatre apôtres qui ont tout lâché pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ au début. Donc Saint Jean apôtre, est la figure du peuple païen qui doit uniquement son salut à la grâce. Zébédée, donc leur père, que ses enfants abandonnent et dont le nom signifie celui qui fuit, celui qui tombe, représente le monde qui passe, le démon précipité du haut des cieux. Pierre et André, qui jettent leur filet dans la mer, figurent aussi ceux qui, dès la première année, jettent loin de la barque de leur corps les filets de la concupiscence charnelle pour suivre le Seigneur. On abandonne les plaisirs du monde pour suivre les plaisirs célestes. Jacques et Jean, qui raccommodent leur filet, représentent ceux qui, avant d'être punis des fautes qu'ils ont commises, viennent à Jésus-Christ pour recouvrer ce qu'ils avaient perdu. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va appeler à son service ses quatre premiers apôtres, donc Pierre, André, Jacques et Jean. Alors, il y a d'autres sens mystiques qui sont expliqués par les pères. Entre autres, un autre père, donc Rabbin Mor, qui dit que les deux barques figurent les deux églises, l'église de la circoncision et l'église de la gentilité. L'église de la circoncision, c'est le peuple juif, l'église de la gentilité, le peuple des gentils. Donc, puisqu'il y a deux barques, donc puisqu'il y a la barque de Saint-Pierre et Saint-André d'une part, d'autre part la barque de Saint-Jacques et Saint-Jean. Donc deux barques, parce que l'église va être l'union, si vous voulez, la continuation de l'église de la circoncision qui va devenir l'église de la gentilité. Donc c'est pour cela que le peuple hébreu, plus exactement la religion juive, est la vraie religion jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, ou plus exactement jusqu'au moment où le rideau du temple se coupe en deux. À ce moment-là, on passe vraiment, on abandonne complètement l'Ancien Testament et toutes les lois du peuple juif de l'Ancien Testament vont devenir mortifères, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu par le sacrifice de la messe. Qui transcrit en quelque sorte le sacrifice de la croix, puisque la messe n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, par le sacrifice de la messe. Donc, la croix va être, le sang qui coule sur notre Seigneur Jésus-Christ va être donné aux gens pour la conversion des âmes. Alors, les deux barques, dit Rabbin Mor, figurent les deux églises, l'église de la circoncision, l'église de la gentilité. Tout fidèle aussi peut devenir Simon-Pierre par son obéissance à Dieu. Pierre par la connaissance et l'aveu de son péché. André par son courage dans les épreuves. Jacques par son zèle à détruire le mal. Ou bien encore, ces quatre apôtres, pardon, nous pouvons voir une figure des quatre vertus principales, des quatre vertus cardinales. La justice, la prudence, la force et la tempérance. Donc la prudence, c'est la vertu du chef. Contrairement à ce qu'on pense, la force n'est pas la vertu du chef, mais c'est la vertu de prudence qui est la vertu du chef. Donc dans Pierre, en Pierre, c'est la prudence, cause de la connaissance qu'il a de Dieu. Dans Saint André, son frère, c'est la justice, cause de l'énergie de ses actes. En haut de la page 32 maintenant, c'est le point des copiers. Dans Saint Jacques, c'est la force, parce qu'il supplante le diable. Et dans son frère Saint Jean, c'est la tempérance comme effet de la grâce divine. C'est pour cela que Saint Jean est le seul apôtre vierge, parce que justement, il a une tempérance plus grande que les autres. Alors, vous voyez, on voit bien donc, que c'est le sens mystique que donnent tous les pères aux quatre premiers apôtres, qui représentent les quatre premières fondations de l'Église nouvelle. L'Église de la gentilité, c'est l'Église nouvelle, l'Église qui va se couper de l'Église juive, donc qui va terminer son rôle. L'Église juive va mourir littéralement, va être remplacée par l'Église catholique. Donc il y a une transposition, si vous voulez, de l'ancien peuple élu, qui a été le peuple élu jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, attention, il faut respecter ça, mais ce peuple élu est transformé en un nouveau peuple, et c'est le peuple catholique qui va prendre la place. Et notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'Église catholique qu'il fonde à ce moment-là, justement, continuer tout le travail qui avait été commencé par la synagogue. Et donc, on voit bien les quatre piliers, Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Jacques et Saint-Jean. Une petite note, j'ai mise là, je ne sais pas trop où la mettre, mais je l'ai mise à cet endroit-là, en haut de la page 32. Donc, les pères expliquent pourquoi le poisson était, surtout pendant les premiers siècles de l'Église, le symbole du catholicisme. Le Christ était représenté par le poisson. Donc, vous savez que dans les grandes persécutions, donc depuis les premiers siècles jusqu'à la paix de Constantin 313, donc il y a eu ces 10 grandes persécutions, on ne pouvait plus prêcher publiquement la foi catholique, c'est impossible. Et donc, les catholiques se repéraient entre eux par le signe tout simple du poisson. Un signe maintenant qui est devenu, c'est dommage d'ailleurs, ce qui est devenu un peu l'apanage des protestants. Les protestants se sont reconnus par le signe du poisson. Mais ce signe du poisson, à l'époque, avait un sens très fort. Pourquoi? Parce que le poisson, en grec, se dit « ictus ». Pourquoi? Parce que les cinq lettres du mot ictus représentent les premières lettres de chacune des initiales, les premières lettres de chaque mot qui en grec se traduisent par Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc j'ai mis ici les textes, les mots en langue. Avec l'écrit grec, avec les signes grecs. Bon, je suis nul en grec, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Parce que j'avoue mon ignorance totale du grec. Je regrette d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de faire de grec. Ça me manque un peu, surtout dans l'exégèse. Mais bon, je ne suis pas très malin. Et je suis en mal avec le latin, mais je n'ai pas fait de grec. Et donc, le poisson, donc, qui se disait ictus, si vous voulez, chaque lettre qui compose le mot ictus, donc cinq lettres, représenter un mot. I, c'était en fait le J de Jésus. Ensuite, Christos, c'est le Christ. Fils de Dieu, Sauveur. Donc, cinq mots. Jésus, Christ, Fils, Dieu, Sauveur. Donc, quand on met ces quatre lettres ensemble, on avait le mot ictus, poisson en grec, qui représentait donc notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. Commençons un peu les... Je vais voir si je peux terminer les pages 32. Je serais bien content si je pouvais terminer ça. Versets 23, 24 et 25 du chapitre 4. Jésus parcourait toute la Galilée, page 32 sur le polycopier. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute langueur et toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui présenta tous ceux qui étaient malades, atteints de langueur et de diverses souffrances, et les possédés du démon, les lunatiques et les paralytiques, et il les guérit. Et des foules nombreuses suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va prendre à part ses apôtres, puis ensuite les disciples, mais il va en même temps prêcher aux foules. d'une façon plus. Il ne va pas former les foules de la même façon qu'il va former les apôtres. Il ne va pas former les disciples de la même façon qu'il forme les apôtres. On voit très bien qu'il y a une hiérarchie. En haut, tout en haut, les apôtres. Au-dessus des apôtres, le plus important des apôtres, Saint-Pierre, le futur pape. Après, les disciples et après, le peuple. Encore une fois, oui, on retrouve toujours la même idée. Il n'y a pas d'égalité pour les âmes devant notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur donc parcourait toutes les contrées, mais les pasteurs qui ne sont proposés qu'à la garde d'un seul pays doivent au moins parcourir en détail toutes les infirmités du peuple qui leur est confié afin de pouvoir appliquer à chacune le remède qui lui convient que l'Église tient en réserve. Donc l'Église, on voit très bien dans sa miséricorde, qui traduit la miséricorde du bon Dieu, ne va pas traiter tous les peuples de la terre de la même façon. Encore une fois, toujours la même idée, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'égalité même dans les peuples. Il y a des peuples qui ont plus reçu que d'autres. Il est évident que le peuple juif de l'Ancien Testament a beaucoup plus reçu que les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle le peuple élu, parce qu'il avait reçu justement la mission extraordinaire de préparer la venue du Messie. Parce que le Messie est arrivé, c'est l'Église catholique qui a évidemment pris le relais de cette Église juive, mais ça enlève en rien le mérite de l'Église juive qui était le peuple élu de l'Ancien Testament. Donc il faut faire attention, parfois des catholiques de la tradition qui disent que le peuple juif n'a jamais été un peuple élu. Mais c'est faux. Le peuple juif a été le peuple élu de l'Ancien Testament. Il ne l'est plus, mais il a été le peuple élu de l'Ancien Testament. Les deux termes, enseignant et prêchant. Donc qu'est-ce qu'il va faire notre Seigneur? Il va enseigner, il va prêcher. Bon, il va prouver la véracité de son enseignement, de sa prédication en multipliant les miracles. Donc tous les détails ne sont pas donnés dans l'Évangile. Mais ici, tout c'est expliqué de façon générale. On lui présenta tous ceux qui étaient malades. Les langueurs de diverses souffrances, les possédés, les lunatiques, les paralytiques et les guéris tous. Donc tout le mal, si vous voulez, physique et moral, est représenté là. Donc les deux termes enseignant et prêchant ne sont pas synonymes. Enseigner a pour but, objet, les choses présentes, prêcher les choses futures. Donc il enseigne à partir des choses d'ici-bas, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va enseigner avec des paraboles, des choses toutes simples, et les choses futures. Donc il y a une distinction pour les pères entre l'enseignement et la prédication. Donc notre Seigneur part des paraboles, et à partir des paraboles ouvre l'esprit à quelque chose de supérieur, à savoir les promesses futures, de la vie future. Donc notre Seigneur enseignait les commandements qu'il fallait observer actuellement, et il prêchait les promesses futures. Or, lorsque celui qui enseigne condamne ses inclinations charnelles, sa parole ne donne pas de nouvelles connaissances, elle rappelle celles qu'on avait oubliées. Donc il prêchait l'évangile en annonçant des biens dont les anciens n'avaient jamais entendu parler clairement, tels que le bonheur du ciel, la résurrection des morts et d'autres vérités semblables. Il enseignait en montrant que les prophéties s'accomplissaient en lui, et il prêchait l'évangile en faisant connaître les biens futurs dont il devait nous mettre en possession. Oui. C'est extraordinaire, évidemment, de pouvoir avoir pouvoir entendre sur imaginez une bande magnétique ou un CD ou un DVD de un sermon de notre Seigneur Jésus-Christ, sermon sur la montagne. En lisant l'évangile, bon, on a déjà le texte de l'évangile, mais c'est sûr que le texte de l'évangile n'est qu'un résumé. Attention, il n'y a pas tout dans l'évangile. Saint Jean dit à la fin de son évangile, je crois que c'est Saint Jean qui le dit, que s'il fallait expliquer tout ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, la terre ne pourrait pas contenir les livres qui seraient nécessaires pour tout expliquer. Donc on ne peut pas tout expliquer, mais il faut bien comprendre les choses. Donc les pères vont détailler un petit peu les paroles qui suivent, guérissant toutes les langueurs et toutes les infirmités parmi le peuple. Donc il explique que les pères de l'Église expliquent que les prédicateurs doivent s'appuyer sur leur vertu. Il faut que leur vertu aide les gens à se convertir. La langueur exprime ici les maladies de l'âme, l'infirmité celle du cœur, du corps, pardon. Donc le corps et l'âme sont malades. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va soigner les deux. Il va commencer par soigner les corps parce que ça se voit beaucoup plus facilement. Mais en fait, ce qu'il vise, c'est la conversion de l'âme. La conversion de l'âme, ça ne se voit pas. Donc il commence par les choses corporelles et ensuite, il aide les gens à s'élever du corps à l'âme. Donc, la langueur figure certaines passions de l'âme, comme l'avarice, l'impureté et d'autres de ce genre. Donc, l'infirmité serait la figure de l'infidélité, qui est le mal de ceux qui sont infirmes dans la foi. Ou bien, disent d'autres pères, les langueurs sont les maladies plus graves du corps et les infirmités les plus légères. Jésus guérissait les malades du corps par sa puissance divine et celle de l'âme par ses pieux entretiens. Il enseigne d'abord, puis il guérit. Cela pour deux raisons. D'abord, pour commencer par plus nécessaire, car les pieux entretiens défient l'âme, ce que ne font pas les miracles. Et en second lieu, parce que la doctrine s'appuie sur les miracles et non pas les miracles sur la doctrine. Et donc, il est capital dans la prédication, les prêtres fassent attention justement d'appuyer tous les exemples qu'ils donnent, appuyer leur prédication sur la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas chercher à faire des choses compliquées. Il y a eu des tendances pendant certains siècles, entre autres les siècles du 7e, 18e siècle. Donc il y avait des prêtres qui justement commençaient à suivre le style fleuri du moment, mais qui commençaient à faire des grands discours dans la prédication qui adaptaient le style des hommes mondains. Et évidemment, les conversions se sont littéralement ont été stérilisées. Hein. On voit très bien, par exemple, on voit très bien ça dans Saint-Alphonse de Ligorie avec les rédemptoristes, donc qui interdisait absolument à ses prêtres de prêcher que le style fleuri du monde moderne. On voit très bien ça aussi avec, Saint-Vincent Ferrier aussi, les dominicains. On voit comment ces grands prédicateurs, justement, ont donné l'exemple de leur vie personnelle, de leur vertu personnelle pour amener les gens à monter vers le bon Dieu. Voyez. Et lorsque Saint-Alphonse de Ligorie entendait un jeune prêtre, un jeune diacre, qui prêchait avec le style mondain de l'époque, eh bien, il prenait sa place. Il le faisait descendre de chair, il prenait sa place et finissait le sermon lui-même. Il ne pouvait pas supporter, justement, que ces rédemptoristes tombent dans le même travers de prêcher des choses mondaines. Malheur aux prêtres qui prêchent de façon mondaine. Alors, d'autres détails, je vais terminer la page 32. On peut diviser en quatre classes les disciples qui suivent notre Seigneur attirés par ses divines leçons. Certains par les guérisons qu'il opère, ceux-là par sa réputation et par un motif de curiosité pour voir ce que l'on disait de lui était vrai. Si ce que l'on disait de lui était vrai, ceux-là par envie et par le désir de le prendre en faute sur quelques points de l'accuser. Donc vous voyez, on voit très bien que ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ, il y en a qui suivent pour les bonnes raisons, il y en a qui suivent pour les mauvaises raisons. Il y a parfois des conversions, Dieu merci, des personnes qui ont commencé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ pour des mauvaises raisons, qui ont fini par le suivre, finalement, à la fin, pour des bonnes raisons. Donc au niveau mystique, on voit l'explication mystique, sans se cacher, donc la Syrie, donc, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, dit le verset 24. La Syrie veut dire la superbe, la Galilée, inconstance, on a déjà vu ça. C'est-à-dire le démon et le monde dominé par l'orgueil, toujours porté à rouler dans les choses basses. La prédication y fait connaître le nom du Christ. Les possédés du démon, ce sont les idolâtres, les lunatiques, ceux qui sont inconstants, les paralytiques, les paresseux et les dissolus. Vous voyez, donc on voit ces symboles qu'on retrouve souvent dans l'Évangile. Donc les possédés du démon, ceux qui sont possédés par le démon, très souvent c'était une conséquence, pas toujours, c'était souvent une conséquence de l'idolâtrie. Si j'adore un faux Dieu, évidemment, je me mets dans les pattes du démon lui-même, et à ce moment-là, il prend pouvoir sur moi. Donc je vais me retrouver possédé par lui. Je risque de me retrouver possédé par lui. Donc les lunatiques sont ceux qui sont inconstants. Donc comme la lune, on l'appelle lunatique parce que c'est comme la lune qui change d'apparence tout le temps. On commence par une pleine lune, on finit par pas de lune du tout. Et tous les intermédiaires des deux côtés, eh bien, ça représente justement l'inconstance de ceux qui veulent suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont pas le courage de le suivre complètement. Les paralytiques représentent la paresse. La paresse est la dissolution provoquée en général par les péchés de la chair. Autre témoignage des pères, la multitude qui suit le Seigneur appartient à l'Église et qui, dans un sens spirituel, est tout à la fois la Galilée qui passe du vice à la vertu. La décapole, à cause des 10 commandements qu'elle doit observer, Jérusalem et la Judée, parce qu'elle reçoit la double lumière de la vision de paix et la confession de la foi. Elle est située au-delà du Jourdain, parce qu'après avoir traversé les eaux du baptême, elle entre dans la terre promise. Dans d'autres interprétations des pères, vous voyez, je montre ça comme exemple, parce qu'on voit très bien que dans les explications des pères, tout n'est pas à mettre au même niveau. Il y a des interprétations qui sont unanime entre tous les pères. Tous les pères disent la même chose sur tel point, donc à ce moment-là, ça touche pratiquement à l'infaillibilité pontificale. Ou au contraire, il y a des pères qui disent des choses complètement différentes les uns des autres sur l'interprétation d'un même sujet de l'Évangile. Donc, il est C'est évident qu'il faut parfois faire un tri là-dedans, qu'on n'est pas obligé d'accepter toute l'interprétation des pères quand il y a des divergences graves entre les pères. Il faut aussi l'autorité des pères. C'est évident que l'autorité d'un saint Jérôme sera largement supérieure à l'autorité d'un rabbin mort ou d'un théophylacte qui n'ont pas la même autorité morale. D'accord? Alors, dernière phrase, hein, dernier paragraphe de la page 32. Donc, cette multitude qui suit le Seigneur vient de la Galilée, c'est-à-dire l'inconstance du monde, de la décapole, des dix villes, qui figure les transgresseurs du décalogue. Les décalogues, c'est les dix commandements. Hein. De Jérusalem, parce qu'ils étaient retenus par les douceurs d'une paix innocente, de la Judée, c'est-à-dire d'une doctrine diabolique, d'au-delà du Jourdain, parce qu'ils vivaient auparavant au sein de l'idolâtrie, ce n'est qu'en traversant les eaux du baptême qu'ils sont arrivés jusqu'à Jésus-Christ. Donc, vous voyez là, il faut, encore une fois, il faut voir un petit peu les différentes interprétations des pères. Là, je ne fais qu'un résumé. Hein. Il y a parfois des pages et des pages dans les commentaires des pères de l'Église, parfois des commentaires de pères d'Église totalement inconnus, en tout cas pas moi. Et totalement connu par la plupart des gens, hein, des pères de l'Église qui sont connus que par les spécialistes. C'est pour ça qu'en général, dans les livres de patrologie, on suit surtout les grands, les pères les plus connus, donc surtout les pères grecs et les pères latins, les quatre pères grecs et quatre pères latins, les huit pères fondateurs en quelque sorte de l'exégèse. Voilà, donc on a terminé le chapitre 4. Et donc, la prochaine fois, Dieu aidant, donc ce sera le début du chapitre 5, à la page 33. Donc, on va marquer où j'en suis. Aujourd'hui, donc, on est le 8 mai 2018. Donc, on commencera l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, la prochaine fois, si Dieu veut. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Jérôme et Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.